Hors-champ, aujourd'hui avec Olivier Cadio. Attention, passage, des photos de piliers à feuilles d'acanthe en morceaux dans un fond de pré. Ici, la star des troubadours remonte le courant en se prenant pour un bœuf. Je suis le lièvre, j'invente la sextine à double hélice. Bienvenue au paradis. Un vieux monsieur mélancolique remonte le courant, dos crôlé comme un bateau à aube. J'ai tout, il suffit de recopier. Je n'ai pas le temps d'écrire. Parler, ça va plus vite. Dessiner, c'est mieux. On verra demain. Revenons en arrière. On égale le romain encore 5 minutes. C'est toujours l'été. On travaille, on coupe du foin avec des serpettes à longs manches, on fait des tas, c'est épuisant. Les outils sont bien aiguisés, mais il fait trop chaud. On a beau être habitué, ça reste une surprise à chaque fois quand il fait vraiment trop chaud. Je viens de lire la page 41 de votre livre « Un mage en été » publié par POL, Olivier Cadio. Et là, on voit un peu la structure, la méthode de votre art poétique. Vous procédez par association, par image, par sensation, par émotion?
Oui, bien sûr. Mais j'essaie de faire des phrases avec. C'est pas véritablement des associations. J'ai l'impression que pour faire un livre, j'accumule des sédiments. Je dirais que c'est une banalité. Je pense que tous les écrivains font ça plus ou moins. Mais enfin, je travaille longuement sur les phrases pour que elles épongent énormément de... C'est pas très joli ce que je veux dire, de couches, enfin, je ne sais pas.
Comme et un archéologue.
Voilà, exactement. Alors, je passe mon temps à enlever. Alors, avec un petit pinceau, j'époussette les choses pour que les phrases restent un peu simples. Mais en même temps, organiquement, effectivement, les associations viennent se... Je dirais que le critère de travail est plus, je ne sais pas si ça s'entend là, mais plutôt la clarté que la complication que l'association pourrait.
La clarté des mots et pas forcément la clarté de
la pensée. Si pensée est un mot possible, enfin sans prétention, la pensée de l'écriture. Si j'aimerais faire des choses claires. C'est pour ça que je continue à faire des livres parce que d'ailleurs je me dis la prochaine fois ça sera encore plus clair, plutôt que plus riche. Voilà.
Enfin, vous dites la pensée de l'écriture. Qu'entendez-vous?
Bah justement, je ne peux pas répondre parce que...
C'est elle-même qui produit sans que vous le sachiez.
C'est une pensée spécifique. Ce n'est pas nécessairement une valeur. Là. Le temps consacré à cette pensée, à la différence de la philo, ou je sais pas, n'est pas nécessairement un critère de réussite. Mais il y a une pensée que la littérature peut manipuler des concepts, c'est un mot difficile à employer. Seule la littérature peut les manipuler comme ça, on va dire. C'est une pensée qui est commune à beaucoup de choses. Je pense que la philosophie peut aussi faire miroir avec la littérature. Mais il y a un moyen spécial. C'est un art spécial. Donc, une manière de présenter les idées de manière spéciale. Et une manière de penser spéciale. De penser. Mais après, le lecteur n'est pas obligé de le vivre comme des pensées. Il peut vivre effectivement comme des sensations.
Sensations ou aussi de l'expérimentation. Dans un de vos premiers textes, il s'intitule « L'art poétique ». Poétique, c'est écrit P-O-E-T-I-C avec une petite apostrophe, codicille. Vous utilisez les mots comme une sorte d'absorption. C'est exactement comme quand on prend un linge et qu'on va essayer de l'essorer,
oui, c'est vrai.
Enfin, en tout cas, en tant que lectrice de votre œuvre, Olivier Cadio, on a l'impression de physique comme ça, de torsion des mots, d'essayer d'aller comme on fore un puits de pétrole au fond d'un désert, que vous essayez de comprendre les racines du mot et en même temps de le démembrer, ce mot.
De les rendre, ce que vous voulez dire par essorer, presque de chercher des choses proverbiales, enfin, partageables par tous, mais en même temps... pas des lieux communs. Enfin, j'aime bien le mot, ce que disait Gertrude Stein, faire l'autobiographie tout le monde. C'est-à-dire trouver un certain niveau de langue qui soit à la fois, comme vous le dites, essoré, comme des galets, comme des choses qui seraient lavées, enfin, et qui soient en même temps partageables. C'est-à-dire qui est pour le lecteur une bizarre situation. Il ne sait pas si ce qu'il lit, il le connaît déjà très bien.
Donc vous cherchez à nous désarçonner.
Oui, je ne sais pas. Je suis plus moderne, donc je ne cherche pas. à oui. désarçonner, parce que avant, je pense que quand j'étais un jeune homme, oui, je pensais qu'il fallait désarçonner à tout prix. Maintenant, je pense pas ça. Je pense que si un bâton est plongé dans l'eau, je regarde le bâton bêtement et je regarde pas la déviation. Je sais
mais
pas comment dire.
Mais vous plongez quand même.
Je plonge quand même. Oui, mais oui. Mais pas de la même manière, j'ai changé.
Comment ?
J'ai un point de vue moins volontariste, moins... Ça veut pas dire que j'ai du tout perdu les ambitions que j'avais, quand... enfin les ambitions, les rêves que j'avais quand j'avais 25 ans, quand j'ai commencé à faire ces projets qui étaient des projets plus modernistes apparemment. Enfin, je veux les réaliser par d'autres moyens, invisibles. C'est pour ça que je suis passé un peu... que le théâtre ou le roman, par exemple, m'ont aidé à faire tourner une mécanique plus étrange encore que la poésie ne permettait peut-être plus à une époque. Mais je vais peut-être y revenir.
Alors, nous allons écouter un extrait de Traîne d'André Boukourel-Chleff, inspiré par le poème de Mallarmé pour Un tombeau d'Anatole, avec la voix de Roland Barthes.
Non, je ne te le dirai pas. Alors tu disparaîtrais. Et je resterai seul, pleurant, toi, moi, mêlé. Toi, te pleurant enfant, en moi, l'homme futur, que tu ne seras pas. Qui reste sans vie ni joie.
Nous venons d'entendre un extrait de Traîne d'André Boukourel-Chleff, inspiré par le poème de Mallarmé, donc pour un tombeau d'Anatole, avec la voix de Roland Barthes. Je crois que ça a été un acte fondateur pour vous d'entendre cela à la radio.
Oui, c'est vrai que c'est extraordinaire pour moi de le réentendre. J'habitais en Allemagne, et c'était en 80-81, c'était une diffusion de la France Musique. Et j'ai entendu ça. Je connaissais Boukourel-Chleff sur ses livres sur Schumann, par exemple. Et puis je savais que c'était une personne très étonnante, très délicieuse, enfin. Et j'ai écouté ça et ça m'a complètement bouleversé, parce que j'étais aussi un bon élève de Barthes, enfin un bon lecteur de Barthes, comme beaucoup de gens de ma génération. Donc d'abord, j'entends Barthes, cette voix complètement contre, cette voix sombre, cette voix presque trop lyrique, mais qui est juste, curieusement. Et deux, je découvre alors le poème de Mallarmé, que je ne connaissais pas, Le tombeau d'Anatole. Et j'ai été, évidemment, ça a été le plus gros choc pour moi de lecture, parce que je me suis... Ce poème inachevé, enfin soi-disant inachevé, je pense que c'est plus compliqué que ça, de Mallarmé. Je l'ai vu à la BN exposé, d'ailleurs c'est très très émouvant, on voit ces petits, c'est écrit au crayon de papier. Je me suis dit, alors il est possible de faire une chose incroyablement formelle, avec une puissance émotive et une simplicité. Alors évidemment, autour d'un deuil sans doute peut-être, je pense que Mallarmé en fait savait très bien que c'était... c'est là où c'est vraiment un grand homme, c'est qu'il se dit, bon on va décider que ce sont des poèmes dans un siècle. Il a fait aussi un tout petit texte au même moment qui s'appelle Épouser la notion, qui est un texte complètement à la fois. Alors, c'est curieux, il y a des très très beaux tirets. Ça paraît ennuyeux de dire ça, mais il y a des tirets sur la page, sur les pages dans la transcription, et qui sont comme s'il y avait une scène chorégraphiée. C'est comme si les mots dansaient. Et ce qui est très beau, c'est que c'était la première fois que je voyais finalement une parole sortir à ce niveau de simplicité, de puissance de frappe. Curieusement, après, moi, je me suis mis à lire la poésie américaine, par exemple, qui m'a beaucoup aidé à sortir peut-être l'esprit sérieux français. Et Mallarmé, curieusement, était un appel vers une poésie beaucoup plus ouverte, beaucoup plus fraîche. C'est paradoxal. Alors, quand j'ai entendu ça... Et après, d'ailleurs, c'est pas un hasard si après j'ai travaillé avec des compositeurs, avec Pascal Dussapin, qui lui-même connaissait très bien Boukourel-Chleff. Ça fait une ligne dans ma vie, ça, cette écoute. La radio, c'est pas mal. Surtout quand on est loin. Quand on entend une chose comme ça, donc là, ça peut être déterminant pour un travail.
Alors vous parlez des tirets de Mallarmé, et vous, dans votre art poétique, Olivier Cadio, vous utilisez différents dispositifs. Une page, c'est une possibilité de pouvoir inscrire dans l'espace de cette page des choses qui peuvent être uniquement inscrites dans le haut de la page ou complètement décentrées. Vous utilisez toute la typographie et aussi l'espace géographique.
Oui, mais alors justement, c'était involontaire. C'était la chance.
Ça vient comme ça.
Non, c'est parce qu'en fait, ce livre-là est un faux. C'est un livre que j'ai fait en découpant. J'ai découpé des grammaires pendant plusieurs années.
Et pourquoi
je ne sais pas. Un jour, je suis tombé sur. Je crois que j'étais un. J'arrivais pas tellement à. J'écrivais des poèmes assez justement post-Mallarmé, un peu ennuyeux. Ou alors j'étais très. J'aimais beaucoup aussi Jacques Roubaud et tout ce que faisait. Donc j'avais tendance, comme tout jeune homme, à faire mes classes et à copier mes aînés. Et tout d'un coup, j'ai ouvert une grammaire, les grammaires génératives des années 80, un peu bizarres. Et je tombe
Gérard
sur.
Gérard Genette.
Oui,
et
voilà.
Toute la tendance.
Et je tombe sur ça, alors là. Et je tombe sur des espèces de boucles. Pierre est malade, Pierre est fatigué, Pierre a très mal à la tête. Enfin, des espèces de... Je connaissais pas si bien Borouz, Stein et tout ça à l'époque, au fond. Et j'ai découpé, j'ai inventé le fil à couper le beurre. C'est-à-dire que j'ai pris un cutter et je me suis dit, tiens, je vais découper ça parce que ce que j'aime, c'est la typographie. C'est la manière dont c'est mis en pas. C'est la trouvaille archéologique dont on parlait tout à l'heure. Ce qui me touchait, c'est d'avoir trouvé un trésor qui n'était pas le mien, mais que j'avais élu en découpant patiemment, comme s'il y avait un poème caché dans l'universel reportage, comme ça. Et je prenais ça et je le disposais sur la page, très simplement. Donc, ce qui est amusant, c'est que c'est un folie formaliste, parce que c'est un livre qui est fait d'une suite de petits chocs émotionnels et de petites comptines. Parce qu'en fait, si on le lit à haute voix, ce qui était le projet à l'époque, et j'ai fait beaucoup de lectures publiques, et si on l'enchaîne, et qu'on oublie, et qu'on lit finalement la page comme une partition, si vous prenez le bled et que vous lisez le bled, vous lisez l'exercice à trous, par exemple, et que vous lisez...
Bah oui,
pas
mais c'est ennuyeux, mais c'est pas ennuyeux du tout.
Ça fait du Lucrèce involontaire.
Ah bon, du bled, on passe à Lucrèce.
D'un coup.
Bah alors, puisque j'ai amené ce livre, L'Art Poétique, et que vous mettez vos lunettes, je sens que nous allons avoir une mini-performance d'Olivier Cadio dans Hors-Champ.
Tous les corps lumineux que l'on voit dans le ciel sont les astres que nous ne voyons que la nuit qui nous paraissent très petits. L'astre qui nous éclaire pendant le jour et l'astre moins brillant qui nous éclaire pendant la nuit se nomme le soleil ou la lune, sont parfois cachés par la lumière qui jaillit d'un nuage. Quand il fait de l'orage, se nomme le bruit qui suit l'éclair, se nomme. Quand l'éclair frappe la terre, on dit que tombe. Une table qui vient d'être faite est une table qui sert depuis longtemps, est une table qu'on déplace facilement, est une table difficile à déplacer. Une table dont toutes les parties tiennent bien ensemble est une table dont toutes les parties remuent au moindre choc est une table recouverte de peinture est une table à laquelle des écoliers ont fait des entailles, est une table sur laquelle de l'encre a été répandue, est une table dont le dessus est partout à la même hauteur, est une table dont le dessus est en pente.
On sent bien qu'il y a le rythme, le souffle de la
oui.
respiration, la répétition, mais vous lisez vachement bien. Hein. Alors
vieux,
donc
c'est
ça, c'est pas un texte de vous.
Non, c'est un ready-made. À un moment de ma vie, je pouvais pas être écrivain, voilà. Parce que tout ce que j'avais à dire, je sortais péniblement 3-4 pauvres mots de mon cerveau, et d'un coup je me suis retrouvé ultra-lecteur, mais lecteur fou. Quelqu'un qui lit à l'intérieur des livres, qui a une lecture ultra myope. Donc, et je restituais mon obsessionnalité de lecteur au lecteur. Et ça m'a beaucoup fait de bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après j'ai arrêté de faire des poèmes, strictement. Même si après j'ai traduit les psaumes, enfin j'ai fait une longue histoire de traduction où j'ai retrouvé quelque chose du travail directement rythmique et de la mise en page. Ça m'a toujours passionné. Mais je me suis dit, si je refais ça une deuxième fois, je vais savoir ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la type pour la... Je vais commencer à faire le à être maniériste, c'est-à-dire ah tiens, je vais mettre ça en haut, devenir faire de l'esthétique. Et là, c'est fini. Et j'ai tout de suite quitté ça pour faire travailler dans la musique ou ailleurs. Et finalement, ce n'est qu'après, en faisant des romans, que j'ai pu finalement continuer ce programme et encore une fois à l'envers. Je sais pas comment vous dire, dans le noir, dans l'espace que permet le roman, l'espace plus dans la page noire du roman au lieu de la page blanche du livre.
Pourquoi page noire ?
Parce qu'il y a de l'espace dans les livres. Le roman est quelque chose qui imprime dans le lecteur une autre scène, je pense, avec des choses qui se passent, des milliards d'opérations cervicales qui ne sont pas du tout les mêmes, je pense, que l'opération du lecteur de poésie, qui lui sans cesse accommode sur la page, fait le point. Et c'est ce qui crée la jouissance, le bonheur de la lecture de la poésie. C'est cette rareté, cette merveille. Alors, je viens de la poésie blanche, comme on disait, qui est un. Alors, c'est peut-être. Je suis encore militant de cette merveilleuse idée. Ce minimalisme sur la page. Mais je pense que le roman peut produire les mêmes effets, mais c'est difficile à décrire. La capacité d'élucidation du roman n'est pas du tout la même que celle du poème, qui a lieu, je dirais, Dans le miracle, c'est que ça a lieu comme ça. Alors d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que puisqu'on en était avec Barthes là, si on lit le fantastique dernier, enfin qu'on écoute le dernier séminaire sur la préparation du roman, on se rend compte d'une chose bizarre, c'est que Barthes passe une année à articuler le haïku, les formes courtes, et puis les formes longues pendant la recherche. Et on comprend l'articulation bizarroïde, par exemple chez Proust, entre les carnets ou les petites notations très très étranges, très très conceptuelles, et puis l'énorme masse. Et on a l'impression que l'un s'inscrit dans l'autre, que l'un est le négatif de l'autre, que le haïku est caché dans la grande masse. Enfin voilà. Et au fond, c'est ça qui me plaît, moi. C'est cette espèce de va-et-vient. Et que j'ai envie, je veux l'un avec l'autre. Alors moi, c'est compliqué, hein, parce que je voudrais les deux.
Vous procédez par association. Je vais lire un court extrait de votre dernier ouvrage paru récemment qui s'intitule « Histoire de la littérature récente ». Voici ce que vous écrivez au chapitre de l'air. C'est bien gentil tout ça, mais n'oubliez pas de mettre de l'air. De l'air à l'intérieur, ça ne veut pas dire obligatoirement disposer du blanc. Certains poèmes, même avec beaucoup de vide autour, peuvent rester trop épais. On n'est pas obligé non plus de découper les choses, comme le font le plus souvent les musiciens qui ménagent des plages de silence sur les disques pour séparer les morceaux, en espérant que l'auditeur remette à chaque fois son cerveau à zéro, comme une ardoise magique. Alors, les choses ont-elles vraiment changé pour vous avec, finalement, une autre vision de la littérature? Parce que quand on lit « Histoire de la littérature récente », tome 1, on se dit que vous prenez à bras-le-corps la littérature, sa définition, ses enjeux, ses problématiques, pouvoir en écrire de manière tout à fait nouvelle. Et on en rit, d'ailleurs. Et en même temps, on se dit « il a retrouvé une espèce de pêche ». Mais moins de sérieux vis-à-vis de la littérature.
Oui, c'est vrai. Et puis j'ai toujours eu envie de faire parallèlement au livre des espèces de pas de théories, mais pas mal de réfléchir sur la littérature, comme j'avais fait une revue avec Pierre Alféri dans les années 90, ça s'appelait la revue Littérature Générale. Donc j'avais peut-être au fond une idée, comme si c'était deux domaines un peu séparés, réfléchir d'un côté et écrire de l'autre. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, mais disons que là, ça se réunit. Ça se réconcilie. Et c'est vrai, vous avez raison, c'est à bras-le-corps. Tellement à bras-le-corps que je suis vraiment très très près de... Comme dans le baiser de l'Albertine, je vois plus que... Je l'embrasse peut-être tellement fort, la littérature, que je suis très près d'elle.
Alors comment c'est venu, cette espèce de saut dans le vide, si j'ose dire? Ça a déjà été préparé par l'avant-dernier, par Providence, d'une certaine façon.
C'est-à-dire Providence, c'était la fin, c'est très prétentieux de dire ça, de mon cycle, enfin de mon roman. J'ai senti que c'était la fin d'un projet qui a commencé il y a assez longtemps. Ouais. Un premier livre s'appelait Futur ancien fugitif. Il y a sept tomes, ça fait un peu sérieux. Ça.
Ouais.
Peut-être on va, j'espère.
Mais c'était un épuisement des formes, d'une certaine façon.
Oui, c'était déjà un catalogue. Mais que j'ai fait à chaque fois... lentement, puisque je prenais 3-4 ans pour faire un livre, et à chaque fois j'essayais de trouver une nouvelle manière, avec le même personnage toujours, parce que c'est le même personnage qui court, si je puis dire, il court beaucoup dans tous ses livres. Et puis c'est vrai que chacun des livres était dans une nuance légèrement différente, hein, je crois. Et puis là, ça c'est terminé, je pense, et au point que j'ai envie de les publier d'un coup, peut-être. Non, mais ce qui est vrai.
Donc un rythme très soutenu.
Oui, c'est-à-dire que oui, du coup, là, j'ai
des
changé de...
Des chapitres très courts.
Voilà, chapitres courts. Et puis
des phrases à dire tout haut, en quelque
oui.
sorte.
Enfin, encore que c'est moins...
Cet été, on peut les prononcer sur la plage, je trouve.
Oui.
Avant de plonger.
Ah oui, c'est vrai. Oui, j'espère. Ah, ce serait bien.
Il y a quelque chose comme ça de tonique et de...
Sans combinaison, oui.
Et de vital.
Ça m'était déjà arrivé quand j'ai fait mon premier livre de poésie. C'est pour ça, tout à l'heure, vous disiez que... Je récusais un peu la poésie. Non, c'est simplement, je me sens pas si poète que ça. Parce que poète, c'est une activité. Il faut pas. Les gens ont tendance à dire la poésie, c'est des choses un peu. Ah, ça va partout, il y en a partout, etc. Les romanciers sont aussi des poètes. Pas vraiment. La poésie, je pense un peu comme Jacques Roubaud, les gens. Ils pensent que la poésie, c'est un outil. Et ne pas. Je l'ai pratiqué au fond, en traduisant, par exemple, en traduisant les psaumes, etc. Mais j'ai fait qu'un seul livre de poésie. Et à ce moment-là, c'était une sorte d'ouverture. J'ai vécu un moment. Dans les années 80, un moment comme ça d'ouverture, j'avais l'impression que je pouvais parler de tout, prendre tout. Je sais pas, c'était assez joyeux comme moment. Puis après, j'ai commencé ce long travail de roman. Et là, je me retrouve un peu, effectivement, dans une position assez... Comme si je commençais, comme si j'étais un bébé moderne. Je sais pas comment dire ça. Je reprenais tout.
Un vieux bébé.
Un vieux bébé, oui, c'est ça. Enfin,
un vieux bébé qui a gardé l'innocence du langage, mais qui jubile... En désarticulant ce même langage et qui peut aller très loin... Et un vieux bébé qui se moque aussi des doctes de la littérature et qui nous réconcilie, nous lecteurs, avec la jubilation que procurent les mots. Un vieux bébé qui est toujours poète, parce que regardez, « Conseil d'amis », c'est un titre d'un des chapitres. Voilà ce que vous écrivez, Olivier Cadiot. Vous voulez tout dire, c'est ça qui vous pousse. Toutes vos histoires, roulées en boule dans un sac, tous vos mots non dits, vos lettres jamais écrites, vos souvenirs compressés dans des caisses en carton, des masses gris sales, boue neige sur le bord des routes. Rien ne semble plus abandonné, on devrait dire congère. Mais quel nom horrible! Une boîte remplie d'un paquet de ouates grises, un cake de poisson, une nourriture de banquet, un nouveau nuage avec un sale nom. On a l'impression aussi que là, c'est l'imaginaire qui roule et que chaque mot en entraîne un autre. Vous parliez de Jacques Roubaud, mais il y a un peu de Pérec aussi.
Ah oui, c'est vrai que la vie mode d'emploi reste quand même un des rares exemples, je trouve, de la modernité littéraire, à la fois formelle et joyeuse. C'est quand même ça le rêve, non? Ouais. C'est d'avoir des choses extrêmement construites et extrêmement drôles. Hein. Je parle pas de mon livre, là, je parle de Pérec. Non, c'est aussi un livre où je me rebelle aussi, enfin, contre moi-même.
Contre une certaine histoire et contre une certaine vision de la littérature.
Décliniste, enfin bon, le déclinisme, on en a soufflé.
Vous moquez de ceux qui regrettent la mort de Balzac.
Et ceux qui regrettent aussi la mort de ceux qui ont voulu tuer Balzac. C'est-à-dire que c'est à triple bande. C'est-à-dire que c'est vrai que le monde de la littérature est souvent... On se plaint énormément. Mais je me suis rendu compte, je me plaignais aussi, c'est terrible. Chaque rentrée littéraire, on dit c'est épouvantable, comment on va faire? Ah, c'est affreux. Bon, c'est-à-dire tout le monde est... Le niveau baisse, vous savez, cette... Et je me dis...
Et vous, vous dites pas que le niveau baisse.
Oui, mais je veux pas défendre non plus la littérature. C'est-à-dire que, je sais pas, quand j'étais très jeune, Michel Deguy disait un truc très beau, il disait « La poésie, c'est une réserve d'Indiens ». Mais c'est à la fois magnifique, mais j'ai pas envie aujourd'hui de dire « Ah !» Il y avait même une association de défense et d'illustration de la littérature contemporaine, qui était une association, j'avais une petite carte... La DILC.
Ah ben ça veut dire que vous y avez adhéré alors?
Oui, j'ai adhéré. Je sais pas, c'était pas très cher, mais j'avais donné ma cotisation et j'avais cette petite carte.
C'est pas comme avant.
Oui, mais alors justement, du coup, je me suis dit, c'est pas comme avant, mais alors je vais pas non plus dire c'est formidable, il y a des gens qui travaillent, c'est merveilleux, regardez, on est isolé, mais on est fort. C'est-à-dire qu'au fond, je voulais ne plus parler en termes d'idées générales. C'est-à-dire, et plus faire d'histoire. Alors paradoxalement, pour ne pas faire d'histoire, faites une histoire. Enfin, faites votre histoire pour ne pas faire d'histoire, au sens. Pas faire sur la gare des Michards dans lequel on est tous.
Mais c'est quoi la littérature? Parce que le niveau ne baisse pas, dites-vous.
Oui, mais alors justement.
Vous récusez les déclinistes.
Oui.
Certains disent que la langue est de moins en moins apprise, que la langue fout le camp.
Oui, c'est absurde de penser une chose pareille. Comment on peut penser une chose pareille? Mais enfin, la langue fout absolument pas le camp. La langue se démultiplie à vitesse de grand V. Simplement, il faut savoir le capter, le regarder et en faire quelque chose, enfin. Mais alors, justement, j'ai pas envie de dire le contraire. C'est pour ça que je peux pas répondre. Je peux pas dire,
au mi-temps de la langue.
C'est-à-dire, je me dis, ça va très bien. Il faut juste se replonger dans l'affaire de telle manière qu'on redécouvre. C'est une démonstration par l'absurde, au fond. C'est-à-dire, je me dis qu'en faisant un espèce d'essai qui, finalement, j'espère, en avançant, produit des effets de littérature petits. C'est-à-dire des petites envolées.
Oui, mais en même temps, vous nous questionnez, nous lecteurs, sur la pratique de la lecture, parce que à chaque fois, vos chapitres sont des interrogations que vous nous formulez, en quelque sorte, en direct, parce que vous nous dites que la littérature, c'est pas si facile que ça, l'idée de faire un livre, c'est très compliqué, que l'idée même de l'histoire de la littérature, c'est très complexe, que dès qu'un écrivain a une idée et qu'il essaye de la transcrire, c'est pas tout à fait ça qui passe et qui se passe. Donc, qu'est-ce que vous écrivez, au fond? C'est la question qu'on peut se poser après avoir terminé ce bouquin réjouissant.
Alors, heureusement, il y a marqué « à suivre ». Donc, j'ai de la chance, parce que je peux ne pas conclure. J'espère que dans le tome 3 ou 4, on trouvera la solution. Je pense effectivement que c'est pas très clair, puisque je donne des conseils, des mauvais conseils aux gens, des bons, mais aussi des mauvais conseils à moi-même. Je fais tourner, au fond, « je »,« tu », »,« il », »,« nous ». Il y a beaucoup de pronoms personnels. Effectivement, on peut le lire comme un livre sur la lecture, ou comme un livre sur l'écriture, ou comme un livre d'un écrivain qui parle de lui comme un lecteur, ou d'un lecteur qui parle de lui comme un écrivain. Finalement, c'est toutes ces positions merveilleuses.
Vous avez oublié le jardinier.
Le jardinier.
C'est peut-être la figure du jardinier qui est la plus importante dans le bouquin.
Oui, c'est vrai. Le jardinier, il a des techniques bizarres de taille. Quelquefois, on dit, on va prendre les rosiers, il faut faire un, deux, trois. Non, vous savez, les yeux des roses. Il faut couper au troisième ou au deuxième et demi. peut-être les auditeurs vont m'engueuler parce que c'est pas vrai ce que je dis. Et puis il y a aussi la technique de prendre un taille-haie et de couper tout, et c'est ce qui marche le mieux. Ça, les roses renaissent follement.
Vous,
la
votre genre,
d'après.
C'est pas le jardin à la française.
Bah là, j'étais au collège, j'étais en Angleterre, à Trinity College, là, justement, pour revoir les jardins. Hein, j'aime bien le mélange formel avec de l'herbe haute dans un coin.
Alors, feuilleton, vous dites feuilleton avec cette histoire de la littérature. Tome 1, ça veut dire que très vite, il y aura un tome 2, si c'est un feuilleton. Et que vous auriez pu, comme du temps de Balzac, d'ailleurs, on peut peut-être le regretter pour le coup, le publier tous les jours en feuilleton,
mon rêve.
En page numéro 1.
Mais où?
Bonne question.
Tristram Shandy.
Personne n'en
voudrait.
Laurent
Stern, Tristram Shandy, ça paraissait en feuilleton comme ça. J'aimerais bien. Alors, c'est une fois par an, a priori, si j'arrive à tenir mon cap. Ce serait mieux une fois tous les 6 mois. Mais c'est du travail quand même, un petit peu. Je ne sais pas si c'est le jardinier, finalement. C'est une sorte de chasseur bizarre, enfin, un chasseur sans fusil. C'est un chasseur qui fait des tentatives d'approche, il passe dans les prés, dans les champs, il revient, il s'approche, il change d'échelle. Finalement, c'est pas si loin de mes romans d'avant. C'est-à-dire le héros, il y en a quand même un espèce de narrateur, je sais pas qui c'est. En tout cas, c'est pas un personnage de roman, justement, c'est quelqu'un qui pourrait être
chacun
vous.
Chacun d'entre nous, hein.
Ce que j'espère, voilà.
Alors vous nous tutoyez, voici vos dernières phrases, attention, hein, ça va être suivi de conséquences. Je te rappelle que nous sommes des naufragés, loin des terres habitées. Lisons à haute voix. Il est même conseillé de chanter. Donc on va terminer. On vous écoute chanter, Olivier Cadeau.
Je fais tout, je chante faux, malheureusement. C'est dommage.
Oh, une petite ritournelle.
Mimi, la petite souris. J'ai un petit garçon, donc il y a Mimi, la petite souris. Voilà, c'est juste ça, le jingle. Mimi, la petite souris.
Bah dis donc, si c'est tout ce que vous lui dites, il s'endort avec ça.
Ça marche.
Ça
marche très très bien, Mimi la petite souris. Tiens, ça pourrait être dans le sujet du tome 2.
Ah, on attend alors. Ça sera quand?
Février prochain.
Ben, merci beaucoup, Olivier Cadieux. Je rappelle que tout votre
merci.
Travail, qui ressemble presque à une œuvre, est publié aux éditions POL.
Merci.
Merci à toute l'équipe de Hors-Champ, merci à Corinne Amart, Samuel Bernard, Élodie Royer, Valérie Lavalard et Anne Kobilac. Vous écoutez France Culture. Bon après-midi.